les podcasts de Radio Vatican.
En France, la campagne électorale à la présidentielle s'achève ce vendredi soir 21 avril à minuit. Une campagne dont les dernières heures se sont déroulées dans un climat sécuritaire tendu. À deux jours du premier tour, c'est une campagne pleine de rebondissements qui s'achève, avec un scénario inédit où quatre candidats ont de réelles chances de parvenir au second tour. Le taux d'électeurs indécis n'a semble-t-il jamais été aussi important dans l'histoire de la Ve République. Pour certains, cette course à la présidentielle a été longue et d'un niveau médiocre, polluée par les affaires et les petites phrases. Une campagne surtout qui est passée à côté de l'essentiel, selon l'écrivain et essayiste Jean-Claude Guibaud. Pour lui, si le niveau des débats s'est effondré, il y a malgré tout des raisons d'espérer.
Pour vous parler franchement, cette campagne a été épouvantable. Je pense qu'on n'a jamais vécu une campagne aussi médiocre, aussi remplie d'invectives, de simplifications. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je pense qu'en effet, cette campagne a été épouvantable, mais que c'est dû à un concours de circonstances assez tragique et assez funeste. Les choses se sont additionnées. D'abord, il y a eu le choix, qui se révèle a posteriori désastreux, d'organiser des primaires. Dans l'esprit initial, ça paraissait bien, ça permettait au fond d'échapper aux secrets, aux manigances des appareils des partis politiques pour démocratiser le choix des candidats à la présidentielle. À l'usage, ça s'est révélé catastrophique, parce que les primaires se sont mis à ressembler aux radio-crochets radiophoniques de mon enfance, où les gens venaient pousser la chanson, et se montrer, et puis on choisissait les meilleurs. Et finalement, ça a brouillé beaucoup de choses. Les primaires, je pense que ça a été le premier vice initial. Ensuite, il y a eu, par rapport aux présidentielles d'autrefois, il y a eu le jeu déterminant des réseaux sociaux, qui se sont ajoutés à la couverture médiatique des choses. Ils ont libéré la parole la plus vulgaire, la plus méchante, la plus haineuse. J'ai rarement vu une porte aussi grande ouverte à l'injure, à la simplification, aux soupçons, aux mensonges. Nous avons baigné littéralement dans ça, et ça, c'était pas du tout habituel.
Dans ce contexte, cette campagne médiocre, comment prendre de la hauteur ?
D'abord, essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi on est tombé dans ce piège. J'ajouterai un troisième élément qui s'est ajouté, qui répond un peu en partie à votre question. On a toujours polémiqué au sujet des sondages, et il y en a depuis très longtemps. Mais il n'y en avait pas eu à ce point comme cela, qui ont transformé la campagne électorale en un espèce de le jeu des petits chevaux, vous savez, c'est-à-dire jour après jour, on voyait un tel a gagné un point, un tel en a perdu deux. Ça a eu un effet, même pas seulement d'influence, mais ça a eu un effet hypnotique. Par exemple, on a été conduit, au fond, à laisser tomber certains candidats qui étaient plutôt sincères, parce que ces sondages étaient mauvais. Donc, prendre conscience de cela, faire le tri, retrouver nos esprits, je pense que ça serait une bonne chose. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le point final de tout cela, qui à bien réfléchir est tout de même extravagant, c'est que la principale question qui obsède en réalité les économistes, les hommes politiques, quand on leur parle en tête à tête, n'a pas été traitée. C'est la quasi-certitude que nous ne sommes pas sortis de la crise financière. Cette crise financière qui nous attend risque d'être encore plus sévère, plus grave, plus intense que celle de 2008. Et que c'est à cela qu'il faut se préparer.
Faut-il moraliser la vie politique et comment ?
J'ai toujours été allergique au discours qui consiste à dire, au fond, il ne s'agit pas de choisir un ami, quelqu'un qu'on aime bien, il s'agit de choisir quelqu'un qui est capable de gouverner un pays. Autrement dit, peu importe ses défauts, peu importe ses fautes et ses faillites morales, du moment que c'est un bon technicien. Je n'ai jamais adhéré à ce discours. Moi, j'ai toujours gardé en tête un discours contraire. Le discours contraire, c'est le discours magnifique que tenait Thomas Masaryk, qui a été le fondateur de la République tchèque au moment de l'éclatement de l'Empire austro-hongrois au début du XXe siècle. Masaryk, s'adressant à ses partisans, disait « Si tu veux combattre la tyrannie, commence par t'imposer deux choses. » Ne ment pas, ne vole pas. Je suis plus dans ce discours-là que dans ce discours désabusé en disant il ne faut pas mélanger la morale et la politique. Je pense que si, bien sûr qu'il faut les mêler.
Malgré les affaires et le niveau parfois médiocre des débats, vous êtes un optimiste. D'où cela vient-il ?
Je n'aime pas trop le mot optimisme d'ailleurs. Je préfère parler d'espérance. Moi je suis en effet habité par l'espérance. Je crois que je dois ça. Vous savez, chacun a vécu ou vit la foi et l'espérance à sa manière. Moi, il se trouve que, un peu par hasard dans ma vie, c'était pas un choix de départ. Au départ, je voulais être professeur de droit. Et en fait, je suis devenu correspondant de guerre. Et j'ai été correspondant de guerre pendant presque 30 ans. Donc j'ai vécu presque 30 ans de ma vie dans les tueries du monde. Et comment vous dire, quelquefois, on me demande aujourd'hui, surtout les jeunes journalistes, me disent « Mais monsieur Guibaud, Comment pouvez-vous être autant habité par l'espérance malgré ce que vous avez vécu ? Ben je leur réponds, vous vous trompez, ce n'est pas malgré ce que j'ai vécu, c'est grâce à ce que j'ai vécu. Parce que quand je repense à toutes ces années de guerre, en Asie, en Afrique, au Proche-Orient, etc., je me souviens surtout d'une chose, c'est que dans toutes les situations, j'ai toujours trouvé des gens qui ne désespéraient pas. Et j'ai fait mienne, au fond, une phrase de Bernanos, la plus belle forme de l'espérance, c'est l'énergie du désespoir. C'est quand on trouve en soi la capacité de ne pas désespérer. Et vous savez, chaque fois que je rentrais à Paris pendant toutes ces années, c'est en France que je trouvais la sinistrose, le pessimisme, etc. Et chaque fois je me disais, mais si moi aussi je sombrais dans cette espèce de pessimisme mondain de Saint-Germain-des-Prés, j'aurais le sentiment de trahir tous les gens que j'ai abandonnés là-bas.
Et cette espérance n'est plus portée par les politiques ?
Elle est portée par la société civile, vous savez, honnêtement. Autant la classe politique va mal, autant la société civile se porte très bien et est inventive. Et c'est de ce bouillonnement-là que sortira la démocratie de demain. J'en ai aucun doute là-dessus.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.